Si tu es inscrit au mail privé d'Outils du Manager, tu sais déjà qu'en ce moment, la formation Cœur d'Outils du Manager est en promotion. Pendant une semaine, tu économises 30% sur le manager essentiel en passant commande avec le code MÉTHODE. Pour découvrir le programme, clique sur le lien du catalogue en descriptif de ton épisode. Et si tu souhaites t'inscrire au mail privé, tu trouveras également un lien en description. Bonne écoute.
Salut John, comment tu vas ?
Mais je vais super bien, je vais super bien.
Je suis très très content de discuter avec toi aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu.
Eh ben oui, ça fait un moment. Moi, ce n'est pas vrai, puisque moi, je lis tous les jours, tes petits messages que je trouve super parce que ça se lit en 35 secondes et ça me rafraîchit, c'est vivant, c'est bien. Voilà. Et tu sais que mes équipes sont équipées aussi, donc de ton logiciel, en tout cas mon associé. Donc, je suis à la fois un de tes clients, mais surtout un de tes big fans de tes petits emails parce que tu as compris qu'il fallait faire court. Voilà.
Et direct. Écoute, c'est super. Je suis ravi de ton retour. C'est vachement agréable. Par contre, sur la partie intelligence artificielle, surtout, ne m'épargne pas. C'est très gentil, le petit mail que tu m'as mis en disant « Non, mais je vais faire une critique bienveillante. » Non, en fait, je pense que… Moi, je ne suis pas expert. Je suis vraiment utilisateur. Mon expertise, elle est ailleurs. Et donc, je suis prêt à écouter ta critique parce que c'est comme ça que je vais en apprendre le plus possible. Donc, vas-y. Tu peux lâcher les chiens, j'ai le cuir dur, il n'y a pas de souci. Ce sera, je dirais, à moi de faire le tri après. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un format dynamique, c'est-à-dire qu'on fasse ça sur un format… Alors, je te propose une chose d'ailleurs, c'est d'avoir vraiment deux parties. Une partie qui sera vraiment publique, et puis après la partie plus plan d'action, secret, discussion qu'on peut avoir derrière, je la ferai privée, c'est-à-dire uniquement pour les gens qui sont vraiment abonnés à Outils du Manager. Parfait. Comme ça,
c'est toi qui dirige.
Le mainstream d'abord, et puis ensuite, je dirais les secrets, les choses que tu veux nous apprendre en tant qu'expert. Je serais assez partant pour ce format. Je ne sais pas ce que tu en penses.
C'est toi qui dirige, il n'y a aucun souci, je te répondrai spontanément et avec mes mots et toujours un peu direct parce que c'est mon style. Voilà.
Super, génial. Donc, juste une petite, très rapide présentation. Donc, John, tu es spécialiste de l'intelligence artificielle. Tu es un ex-membre du CIEL, mon cercle d'entrepreneurs. Et mes dernières vidéos t'ont fait réagir. Tu m'as fait un premier mail en disant « Ah, c'est bien que tu t'intéresses à ça, mais il y a peut-être une autre manière de voir les choses. » Et puis après, j'ai fait une vidéo où je fais une espèce de démonstration, mais une démonstration en tant que non-expert. Et là, tu me dis « Ah là, je vais être plus critique. » Et donc, je pense que ta vision n'est pas tout à fait la bonne. Et moi, je suis ouvert à la critique, c'est ce que je te dis. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de te recevoir. Je te propose… qu'on commence par ta critique sur mon approche de l'IA, parce que je pense que ma manière d'appréhender l'IA, c'est la manière d'une personne lambda, peut-être qui creuse un peu plus que les autres, mais en tout cas, certainement pas une approche de spécialiste. Et là, je te le dis, n'hésite pas, lâche les chiens, on s'entend assez bien pour ça, je ne le prendrai pas personnellement, et c'est comme ça qu'on progresse. Deuxième partie, ça m'intéresserait que tu nous fasses le point sur le vrai état de l'intelligence artificielle, parce qu'on a plein d'infos dans tous les sens, et je dirais que je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont inexactes. Ensuite, peut-être nous dire un peu comment éviter les erreurs et les errances. Et puis là, on passera ensuite pour les personnes qui sont inscrites, qui sont membres de la communauté. Vous pouvez vous inscrire juste en dessous. Tu vas nous donner un vrai plan d'action pour un manager, un entrepreneur. Et puis, on aura nos conversations un peu plus… privé sur peut-être un ou deux secrets que tu peux nous partager et puis une discussion, je dirais, informelle.
Ça marche.
On part là-dessus ?
Allez, on part là-dessus et peut-être démarrer peut-être sur le point sur l'IA avant de parler de ta démo, puisque ta démo est un contexte du marché de l'IA. Et donc, en fait, on va parler de l'informatique parce que, bon, si tu veux, quand on parle d'IA, il faut bien être clair, c'est ni intelligent ni artificiel, OK ?
OK. Hein ?
C'est une évolution de l'informatique, une évolution certes importante et qui s'explique très facilement. Il s'explique très facilement Eh bien, il faut faire un peu d'histoire. Voilà. Avant Gutenberg, le pouvoir était la possession de terres. Le duc de Bourgogne disait au roi de France, je ne suis pas ton vassal, moi j'ai des terres, je vais jusque dans les Flandres, et donc je ne suis pas ton vassal. Voilà. La possession de terres, qui a été l'apogée, a été la guerre de 100 ans, où sur des motifs soi-disant religieux, en fait, la seule chose qui intéressait les gens, c'était de piquer la terre du voisin pour être plus puissant. À partir de Gutenberg, le pouvoir va devenir le savoir. Et c'est toujours vrai. Et c'est toujours vrai. Regarde-nous, informaticiens, comment on vous tient. On vous tient bien. Hein. Parce que comme on a un savoir très spécifique dans des domaines, eh bien, chaque fois que vous avez une idée en tant que chef d'entreprise ou dirigeant de changer les choses, vous êtes obligé de venir nous convaincre. Et puis, si on n'a pas envie de le faire, je vais vous dire, on ne vous le ferait pas. Parce que de toute façon, vous ne pouvez prendre aucune décision si, sans changer l'informatique, sans adapter l'informatique. Et si on a décidé que vous ne le ferez pas, ben vous ne le ferez pas. Voilà. Et donc, c'est bien le savoir qui a le pouvoir. Et ça, c'est depuis Gutenberg. Voilà. Ce n'est plus la possession de terre, la taille du jardin qui compte. C'est quand même le savoir qui est le pouvoir. Voilà. Avec l'intelligence artificielle, même si c'est pas si intelligent que comme je le disais. La réalité, c'est que le savoir-faire, il va être dans les machines. Et que donc, le savoir du futur, le pouvoir du futur, ça va être le savoir-être et non plus le savoir-faire. Voilà, d'une façon générale. La deuxième chose qui est très importante à prendre en compte, c'est que depuis 50 ans, toute l'informatique, elle est dite déterministe. Déterministe, ça veut dire exact. Ça veut dire que quand je suis sur mon fichier Excel, si j'ai une erreur, c'est que j'ai fait une erreur dans ma formule. Je vais corriger ma formule qui est fausse, je vais la protéger pour que personne n'y touche, et mon tableau, il est toujours exact. Le résultat est toujours exact. Quand vous recevez votre relevé de banque, prenez pas la calculatrice pour vérifier si le solde, il est exact. Depuis 50 ans, l'informatique est dite déterministe, elle est exacte. Et donc, on est habitué à ça. Voilà, on est habitué à ça. Oui, sauf que depuis qu'il y a l'intelligence artificielle de type machine learning, auto-apprentissage en français, et quand on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent que ce n'est du reste que l'auto-apprentissage, tellement le travail marketing des Google, Facebook a été remarquable pour arriver à nous intoxiquer. Intelligence artificielle, dans la description de départ, ne parlait même pas d'auto-apprentissage. Donc, c'est vous dire que, voilà. Mais néanmoins, aujourd'hui, l'appellation intelligence artificielle fait le lien avec l'auto-apprentissage, est de type statistique. Okay. Et la statistique, si je pousse un petit peu et je fais de la caricature, c'est pas parce que la moyenne des gens a fait ceci qu'il faut faire cela. Hein. Voilà. Oui. C'est pas parce que la moyenne des gens qui ont traité ce sujet sur Internet ont dit qu'il fallait marcher sur les mains que je vais marcher sur les mains.
Donc,
le problème de la statistique, si je pousse, et en tout cas, il faut pas dramatiser, mais si je pousse un peu, ben, c'est le mouton de Panurge. Hein. Il y a 10 moutons qui sautent, un mouton qui saute la falaise, puis 10, puis 100, puis j'ai plus de troupeau. Hein. Voilà. Donc, quand je vois ChatGPT et que tu nous dis ben, j'ai mis le nom d'un produit qui n'existait pas, il est en train de me le commenter alors qu'il n'existe pas, forcément, si tu veux, ça me fait bondir.
Ouais, alors, toi, ça te fait bondir et en fait, moi, ça me bluffe parce que je me dis mais comment il sait ça?
Oui, mais moi aussi, ça me bluffe. C'est ouais. Bluffant. C'est bluffant, sauf que la raison pour laquelle d'autres sociétés n'ont pas lancé ChatGPT avant ChatGPT, c'est qu'on a un peu de valeur, quoi.
D'accord.
On arrête, quoi. Je veux dire, tu te rends compte le niveau de fake news et le niveau d'abrutissement vers lequel on va aller. Voilà, ouais. C'est ça la réalité. Ouais. Mais des technologies comme ça, c'est pas un an, ça fait 10 ans qu'on sait faire. Okay. Sauf que personne n'a eu le culot d'aller lancer ça dans le public. Disant, mais on ne savait pas faire mieux en qualité, hein. C'était du n'importe quoi. Hein. On ne va pas utiliser de la statistique, au moins, il faut le dire. Voilà. Au moins, il faut le dire clairement. Les résultats, ils le disent, et honnêtement, ils le disent. Ils mettent bien une page de warning avant qui dit, les résultats, ils sont faux. C'est la démo, quoi.
Sauf que...
Ils disent que c'est parce qu'ils sont en bêta, mais ça ne changera rien que la version suivante. Elle va analyser.
C'est vrai, sauf que effectivement ils le mettent et je l'ai vu en fait en creusant après. Oui. Et puis parce que j'ai creusé, j'ai fait des petites formations sur le sujet et du coup j'ai compris qu'en fait c'était du prédictif, c'est-à-dire qu'en fait l'intelligence artificielle essaye de prédire quelle réponse on attend finalement en utilisant le grand nombre pour dire la majorité des gens ils accepteraient cette. Et du coup je me suis dit, ah ouais. Donc, c'est un peu quand même embêtant. Et ce que je voulais dire surtout, c'est qu'effectivement, ça a tellement envahi le paysage médiatique, parce que sur le web, là, c'est la folie, tout le monde en parle dans tous les sens, que la pauvre page qui explique comment on fait, en fait, on ne la lit pas. Oui, et, ouais. Et quelque part, je dirais que ce n'est pas inintéressant, parce qu'au moins, on se fait son expérience. Moi, je crois quand même qu'un entrepreneur, un manager, quelqu'un qui a envie de réfléchir, il commence en agissant, en étant bluffé, mais le truc, c'est de ne pas en rester là. Il faut ensuite prendre du recul, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, voilà. Pour dire, ouais, ok, j'ai été bluffé, mais en fait, c'est quoi le truc? Un peu comme un magicien, tu vois, tu vas à un spectacle, le mec te bluffe, tu peux rentrer chez toi, et au prochain spectacle, tu seras à nouveau bluffé, ou tu peux te dire, oh, comment il fait, lui, quand même? Parce que peut-être que si je comprends comment il fait, ça va m'apporter des choses.
Bien sûr. Alors, oui, c'est tout à fait bluffant. Oui, c'est tout à fait intéressant. On ne sait pas tout, parce qu'ils n'ont pas dévoilé leur savoir-faire, ils n'ont pas écrit de spécifications. On soupçonne qu'en fait, il ne comprend même pas ce qu'on dit. Il va chercher sur le web quelqu'un qui aurait dit la même chose. Mmh. Et en regardant ce qu'il a regardé, les pages qu'il a analysées, ils en déduisent que la réponse, c'est celle-là. Voilà. Mmh. Donc, mais on n'en est pas tout à fait certain nous-mêmes. Il y a un très bel article de Yann Lequin, on dit en français. Hein, Yann Lequin, L-E, et puis plus loin, C-U-N. C'est un Français qui est un Breton qui a fait l'ENS à Paris et qui après est devenu professeur à New York dans une université new-yorkaise, puis est le patron de l'intelligence artificielle de Facebook aujourd'hui. Hein, donc c'est un grand, grand monsieur, hein, voilà. Et qui dit bon, en fait c'est pas du tout une nouveauté. Voilà. Bon, alors il y a peut-être de la jalousie là-dedans, il y a peut-être etc. Parce que je trouve que quand même c'est très innovant ce qu'ils font. Simplement. Moi, je n'ai pas, avec le recul, j'ai pas été bluffé d'aller taper un produit qui n'existait pas avec une machine qui me répond et qui m'explique les caractéristiques d'un produit qui n'existe pas. Bah, ça me gêne. Voilà. Si vous voulez, voilà. Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui très bien matérialisé par 3 études de l'Ipsos qui dit 81% des Français ne croient pas à la vie d'expert. Hein. Et je crois même que tu en as déjà parlé de ça.
Oui.
Voilà. Ouais. Et ça, c'est marquant parce que on nous parle tous les jours de confiance. On veut que les clients ils aient confiance, ils achètent aux fournisseurs quand ils ont confiance. Mais on oublie de dire quelque chose, c'est que ce qui tue la confiance, c'est le mensonge. Et qu'à partir du moment où j'ai des systèmes informatiques qui me racontent n'importe quoi, avec une proportion d'erreurs, quand je vais commencer à utiliser ce genre d'outils pour aller écrire à mes clients et que je vais écrire des bêtises, bah, je vais avoir des conséquences juridiques qui vont être importantes et je vais tuer la confiance, mais qui vont dire, mais c'est n'importe quoi. Il nous dit qu'il faut faire ça, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mm-hmm. Et là, la confiance va s'écrouler et après, on va se dire, ah, ben, j'ai du mal à faire mes quotas et j'ai du mal à recruter. Ben oui. Tu utilises des systèmes statistiques. Il faut savoir que le statistique, c'est fait pour 3 choses, hein, essentiellement pour faire de la préconisation, de l'étude de tendance. Hein. Je voudrais savoir combien de stocks de médicaments ma pharmacie doit stocker. Eh bien, je vais analyser les chiffres des ventes des 3 dernières années ou 4 dernières années et je vais en déduire qu'il faut acheter ceci ou cela. Bon, entre les deux, tous les logiciels sont à la poubelle dans ce domaine-là, mais c'est pas grave, c'est du détail. Ben oui, à partir du moment où il faut que j'ai une base de données qui soit régulière. Donc, c'est très utilisable dans le monde de l'industrie parce que même si j'ai un taux d'erreur de 10%, eh bien, pouvoir prédire une panne sur une machine à partir de l'analyse des données des capteurs et pouvoir me dire la dernière fois qu'il y a eu une panne sur ça, elle a eu lieu, enfin, les dernières fois, elle a eu lieu quand tel capteur avait telle caractéristique et tel capteur telle caractéristique, c'est extrêmement intéressant parce que ce qui coûte cher dans un dépannage, c'est l'urgence, c'est le faire quand on n'a pas la pièce détachée, c'est l'arrêt de la machine. Et donc, effectivement, pouvoir prédire une panne, même si dans 10 ou 20% des cas, en fait, c'était pas du tout approprié, je préfère changer la panne aux heures ouvertes, en ayant eu le temps de commander la pièce, en ayant tout en main, je veux prendre ce risque de 20% de taux d'erreur. Mais quand il s'agit d'écrire à un client ou donner un conseil médical, ou etc., et dire… statistiquement, la machine m'a dit que vous aviez des chances d'avoir un cancer et donc je vous traite pour le cancer même si vous n'en avez pas. C'est un moment donné où on est dans un monde qui va pas. Et ouais.
Il y a l'écart entre Effectivement, ça fait tout et donc je prends tous les risques. Si on le, dans le cas du traitement du cancer dont tu parles, quand on n'est pas sûr, il y a quand même des gros risques à entamer un traitement. Donc,
Allez, maintenant on va parler du positif. Le positif, c'est que quand je parle d'IA aujourd'hui, je dis à mes interlocuteurs, attention, il faut donc considérer les cas où la statistique est possible. Par exemple, le modèle publicitaire de Google et de Facebook convient très bien à la statistique. La moyenne des couples américains qui ont 2 enfants et qui habitent dans une maison, dans un appartement, et qui déménagent et achètent une maison, qui postent les photos de la nouvelle maison, l'intelligence artificielle détecte qu'il y a de l'herbe, il faut leur vendre une tondeuse à gazon. Bon, eh ben, si tu veux, personne ne fera un procès parce que, voilà, on a poussé une publicité de tondeuse à gazon à quelqu'un qui avait déjà la tondeuse à gazon de son cousin, mais par contre, eh ben, ça fait des taux de clics qui sont très, très importants. Et effectivement, c'est intelligent parce que du coup, on a une publicité plus ciblée, donc moins embêtante puisqu'elle est opportune. Et donc, ça, c'est des cas d'utilisation qui vont très bien. Les cas d'utilisation industrielle que je t'ai donné également sur le changement des pièces détachées est très intéressant. En revanche, 90% des problèmes d'une entreprise sont des problèmes de type déterministe. Je m'excuse pour ce terme technique, mais ça veut dire que c'est des problèmes où il faut de l'exactitude. Et l'exactitude, c'est comme Excel. Hein. Allez voir votre comptable et dire maintenant, je vais faire ma compta et ce sera plus sur Excel qui est déterministe, ce sera sur un système statistique. Le gars, il lève les bras en l'air et il dit, attendez, nous, l'équilibre d'une balance, c'est au centime près, c'est pas de la statistique. Il faut à ce moment-là aller vers des systèmes qui sont déterministes et effectivement, les systèmes experts en font partie. Les systèmes experts existent depuis 50 ans, mais vous savez, l'auto-apprentissage existe depuis 60 ans. Donc, vous voyez, ils ont fait des progrès considérables. C'est des logiciels qui sont très accessibles en prix. Et puis, de l'IA explicable qui est ce qui arrive. C'est-à-dire que la nouvelle génération d'intelligence artificielle, même d'auto-apprentissage, sera basée sur des systèmes que l'on appelle intelligence artificielle explicable et qui sont des systèmes déterministes parce que 90% des problèmes d'une entreprise doivent se traiter avec des problèmes avec des outils déterministes parce que le besoin est déterministe et non pas statistique. Voilà, c'est la grosse nuance que je veux apporter. Le deuxième point qui est important, c'est que aujourd'hui dans les entreprises, on souffre de quoi ? On souffre d'un problème. Le problème, il est de la compétence. Voilà. On souffre un problème de compétence et que je ne peux pas être compétent, je ne peux pas conseiller mes clients, je ne peux pas faire mon travail si je n'ai pas posé les bonnes questions. Voilà. Donc, il faut chercher des systèmes où on va poser des questions. Voilà. Et je reproche à ChatGPT et à cette démo, bah, on ne pose pas de questions.
Exact.
En un mot.
Exact. Moi, alors ça, exact. Au bout d'un moment, parce que j'ai creusé, je vais donner des infos, et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi c'est moi qui suis obligé de pousser l'info vers l'intelligence pour essayer de la rendre moins banale? Et pourquoi ce n'est pas elle qui, au départ, ne me poserait pas ces questions-là, finalement? Ça ne me paraissait pas compliqué que ce soit plutôt elle qui me pose des infos. Mais pour ça, il faut qu'elle soit spécialiste, quand même, pour poser les bonnes questions. Sinon.
Oui. Mais dans nos entreprises, on est spécialiste. En un mot, tu as raison. L'informatique, depuis 50 ans, est une informatique où ce que l'on appelle, qu'on ose appeler dialogue, n'est qu'en fait du monologue bidirectionnel. C'est toujours l'être humain qui pose la question à son logiciel et c'est toujours la machine qui répond, mais c'est jamais la machine qui pose des questions, que ce soit sur Excel, que ce soit sur… Et c'est pour ça que, si tu veux, l'augmentation de la productivité des êtres humains avec les ordinateurs en général n'est que de 14%, voilà, dans le monde en tout cas, des ce qu'on appelle knowledge workers en anglais, ça veut dire des travailleurs du savoir. On n'a eu que 14% d'augmentation de la productivité en 30 ans, 40 ans. Et pour une part, parce qu'il y a beaucoup d'outils que l'on pensait extraordinaires, les emails, je veux dire, par exemple, et qui au départ étaient un gain de temps et sont devenus une perte de temps. C'est voilà. Et donc, il y a une partie de ça. Et l'autre partie, eh ben, c'est que Google ne sait pas te poser de questions. Et donc, finalement, Google, je l'utilise pour savoir le cours de bourse, la météo, enfin, des choses simples. Mais dès que je veux rentrer dans un domaine complexe, si je ne suis pas expert de mon domaine, je ne suis pas capable d'être aidé à la machine à qualifier ma demande comme le ferait un être humain.
Ah, donc, voilà. Ça, c'est intéressant parce que, en même temps, ça démontre tous les gens qui se posent des questions en se disant, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais c'est la bonne nouvelle, quand même, que tu viens de donner, c'est que plus on est expert, plus nous, on s'est posé les bonnes questions, plus on est capable peut-être d'utiliser intelligemment l'intelligence artificielle qui est en fait finalement pas intelligente à notre place.
Absolument.
Mais qui nous assiste là, on a besoin de volume, de quantitatif, de données, de choses comme ça peut-être.
Voilà. Et tu sais, on parle d'Einstein, d'Albert Einstein, et on parle de la relativité. Mais il avait un deuxième domaine qui est extrêmement intéressant. Il était passionné par le fait que les gens intelligents étaient ceux qui posaient les bonnes questions.
Ouais.
Voilà. Et il le disait, donnez-moi un exercice où ma vie est en jeu et donnez-moi une heure pour résoudre une équation mathématique. Je vais pendant 55 minutes me demander si je me pose les bonnes questions et 5 minutes à résoudre l'équation. Et on passe notre vie à pas suffisamment passer de temps à se poser des questions. J'ai rencontré des très grands managers dans ma vie, des Français qui dirigeaient 500 000 personnes. Le hasard de la vie, rien de particulier. Et je les voyais comment ils manageaient leurs gens. Jamais ils ne leur disaient ce qu'il fallait faire. Toujours, ils revenaient sur un point, ils leur posaient des questions. Ils voulaient que les tirer vers le haut. Et les tirer vers le haut, ce n'est pas leur dire ce qu'il faut faire. Les tirer vers le haut, c'est leur poser des questions. Et les influencer, comme tu le dis très bien, le mot influencer n'est pas choquant, pas du tout. On est là, on est leur boss, hein. On est là pour les influencer. Et les influencer par la question, et c'est par le questionnement que les gens trouvent la solution. Et comme ils l'ont trouvé, ils y ont réfléchi, ils ont enrichi leur base de connaissances dans leur cerveau, et ils sont capables de répliquer la même logique de raisonnement dans des situations qui sont presque similaires. Et donc, on délègue bien. L'avenir du manager, c'est celui qui pose les bonnes questions. Et donc, il nous faut des systèmes experts, il nous faut de l'informatique de demain sera une informatique qui nous aidera à nous poser les bonnes questions.
OK. J'ai une question, justement. Ça tombe bien. Donc, il faut être un bon expert pour poser les bonnes questions. Sinon, on ne pose pas les questions adéquates.
Absolument.
Mais juste avant, tu nous as dit, attention, l'intelligence artificielle, il faut qu'on comprenne comment elle fonctionne, elle est sur de la statistique, etc. Et donc, voilà, je suis expert d'un domaine, je commence à poser des questions à ChatGPT en sachant que ChatGPT va aller chercher pas forcément les informations les plus, il va aller chercher les informations les plus redondantes dans le domaine où je l'interroge. Mais comment j'évalue ? Parce que moi, en fait, en tant que personne qui pose des questions, j'ai plutôt envie de poser des questions à un expert du domaine qui m'intéresse. Qu'est-ce qui me dit que ChatGPT est expert du domaine qui m'intéresse ? En réalité, c'est tellement général ce qu'il propose que finalement… Et je m'en suis rendu compte en creusant un peu, en disant… Moi, je me suis amusé à lui demander de me faire des argumentaires sur des choses que je maîtrise très, très, très bien. Et en fait, à chaque fois qu'il m'a fait une réponse, je me suis dit, non, mais je ne prends pas. Là, je suis en train de parler comme 90% des gens qui parlent de mon sujet. Mais ce n'est pas ça qui intéresse les gens. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens qui nous écoutent ? Ils veulent du particulier, de l'exclusif, quelque chose qui va les aider là où personne n'a réussi à les aider avant, parce que justement, le grand nombre ne sait pas comment on fait là-dessus. Ouais. Donc, comment on fait ? Moi, du coup, je me dis, OK, mais donc du coup, bon, bah, à quoi ça me sert, en fait, d'avoir passé du temps avec ChatGPT pour que finalement, il me dise ce que je sais déjà, peut-être formulé différemment, mais quand même… alors après, j'ai pensé à un autre angle, c'est de lui dire, mais non, je ne vais pas lui demander de me dire ce que je sais déjà, finalement. Je vais lui dire comment je pourrais le dire au plus grand nombre pour que ça leur parle. Et là, j'ai eu des trucs intéressants parce que, tu vois, tu peux dire, bah, en fait, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui représente 90% de la population et qui est dans telle situation, on appelle ça un avatar, et mon angle, c'est ça. Et du coup, c'est comme si j'avais une interaction avec, enfin, j'avais l'impression d'avoir une interaction avec les gens qui représentent 90% des gens à qui je m'adresse. C'est le truc que j'ai trouvé à peu près pas mal, sans qu'il soit top, parce qu'encore une fois, c'est généraliste comme approche, donc c'est pas…
Mais c'est un bon brouillon, mais c'est un très bon brouillon.
Ouais.
Voilà. En un mot, on va aller dans un monde où on va avoir deux grandes catégories d'outils. Je l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, la grande innovation de l'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'on peut la comparer à l'imprimerie en termes d'impact, donc beaucoup plus que l'Internet, c'est que Ce qu'a fait l'imprimerie, c'était qu'elle a démocratisé l'accès au savoir et à la connaissance, hein, parce que les gens sont, au début savaient lire, ils ne savaient pas écrire, hein, du reste, ils ne savaient que lire, et que c'était en latin, et qu'on n'avait qu'une seule langue dans toute l'Europe. Donc ça a permis un essor considérable de l'accès au savoir. Un livre valait environ, à l'époque de Gutenberg, 250 euros, à peu près l'équivalent de 250 euros, donc c'est pas négligeable, c'était plus les bourgeois, hein, très clairement. Voilà. Mais les gens n'ont pas appris à écrire, ils ont appris à lire, et ça leur suffisait, c'est le partage du savoir. Avec l'intelligence artificielle, on va mettre le savoir et le savoir-faire dans les machines, ce qui va changer, et donc on va avoir deux catégories, les chatbots d'un côté, ou les moteurs de recherche, où là, je n'ai aucun savoir. J'ai juste une base de savoir et de connaissances qui est plus ou moins reformalisée dans le cas de ChatGPT, puisque je peux lui redemander de travailler avec tel biais ou tel biais ou telle façon de voir les choses. Donc ça, c'est. Et puis, on va avoir les cobots. Ça va s'appeler des cobots. Cobots, collaborative robots, c'est un terme qui vient de l'industrie, mais qui existe aussi dans le monde du conseil. Et aux États-Unis, qui est en train de percer considérablement. C'est-à-dire, là, je mets le savoir de la personne, et une fois que j'ai le savoir d'un expert, eh bien, je vais utiliser, en fait, cet expert qui va, même s'il a digitalisé et que c'est pas lui physiquement, c'est lui qui va venir me poser les questions, qui va m'aider à trouver la bonne solution. Et c'est le monde vers lequel on va. Mais vous voyez qu'on est au début de l'intelligence artificielle, puisque ce n'est pas encore courant. Mais ce qui compte et ce qui va compter pour les PME, hein, c'est d'industrialiser le conseil. Les gens qui vont devenir immensément riches, pas que l'argent, immensément influents dans le monde, sont les gens qui vont être les premiers à digitaliser le conseil. Voilà. À être capable. Le conseil, c'est quoi? C'est je raisonne. J'applique des règles de mon métier sur le contexte d'un client. Et super, je communique bien avec lui. Et je communique avec lui. Sur GPT, ce qui est bluffant, c'est la partie communication. Ce qui manque, c'est un moteur de raisonnement au-dessus qui est capable de me poser des questions intelligentes et en fonction des réponses, de me donner une réponse intelligente qui est un véritable résumé de situation comme ils savent le faire, mais aller plus loin. Un diagnostic, comme tu m'as dit ça et ça, je te déconseille de faire ça, et des recommandations argumentées, comme vous m'avez dit ceci et cela, je vous conseille d'essayer cette solution pour telle raison et telle raison.
Ça, c'est hyper intéressant. Ça, j'ai vraiment des questions plus précises à te poser, peut-être dans la partie privée, parce que pour mon business, il y a des trucs qui vont m'intéresser. Mais, pardon, je me suis mis sur une liste d'attente sur une intelligence, en fait, qui est spécifique au métier que je fais, je parle de mon métier outil du manager, je ne parle pas de l'autre métier, parce que là, j'ai d'autres questions plus précises sur les approvisionnements, etc., etc., qu'on pourra voir après. Mais je me suis mis quand même dans un truc. Alors, c'est très, très bien fait. C'est qu'au début, ils te disent que tu vas avoir accès à une intelligence qui va te permettre de faire ça. Et à la fin, en fait, finalement, ils te mettent sur une waiting list. Donc, à mon avis, il n'y a rien de développé. Ils veulent juste savoir, ils sont en train de tester le marché. Et donc, le truc, la théorie du truc, c'est… Il te pose des questions. Donc là, tu as comme si quelqu'un te posait des questions dans ton domaine et tu réponds et il te pose. Pour en fait créer une IA qui est que tu as éduqué en fait finalement. Et cette IA, tu vas l'utiliser potentiellement pour qu'elle réponde à tes clients quand c'est du niveau qu'elle peut résoudre. Et elle escaladera vers toi si jamais elle n'arrive pas à résoudre. Le client continue à lui dire non, je n'aime pas cette réponse, pourtant, etc., etc. Là, je me suis dit, OK, là, on est dans un truc. Alors moi, je me fiche de savoir si c'est de l'intelligence artificielle ou pas. Je me suis juste dit, tiens, ça, c'est vachement intéressant parce que c'est mon problème en tant qu'expert de devoir répondre toujours à des problématiques qui se répètent. Et j'ai développé une expertise là-dedans, mais finalement, elle n'est pas, comment je vais dire, là où je ferais le meilleur usage de mon expertise, de mon capital confiance et de mon expérience, ce sont avec des problèmes plus complexes.
Oui, bien sûr.
Et donc, ça me débarrasse, sans être péjoratif, des problèmes, je dirais, classico-classiques. Et ça me permet, quand il y a d'autres problèmes que je ne connaissais pas, que l'intelligence me dit, ça, j'arrive pas à le résoudre, Cédric. Ouais. Comment ça se fait? Et là, ouais, là, je me dis, ah, c'est là que je vais pouvoir enrichir mon expertise grâce au filtre qui a été fait par l'IA.
Oui. Alors, il est important d'amener une nouvelle notion dans ce que tu dis avant que je réponde à cette problématique où je te donne des axes de réflexion. Il y a 5 types de textes sur Terre. 5. Premier type de texte, c'est de l'information. Aujourd'hui, à Marseille, il pleut et il fait telle température. C'est de l'information. Voilà.
Okay.
Trop d'informations tuent l'information. Les gens ne veulent plus l'information.
Ok, exact.
Quand je lis les échos et je dialogue avec les gens des échos, ils ont même un problème, c'est qu'il y a des gens qui payent l'abonnement annuel et ne lisent plus que le samedi matin le résumé de la semaine. Voilà.
Moi, par exemple.
Ben moi aussi.
En fait, moi, j'aurais voulu ma newsletter à moi sur ce qui m'intéresse.
Oui.
Mais tu vas voir, tu vas de devoir me taper le journal parce qu'il est quand même volumineux.
Voilà. Tu vas voir que tu vas vouloir plus que ça. Le deuxième type de texte, c'est le savoir. Le savoir, c'est des règles matérialisées par exemple, la foire aux questions sur un site web. Voilà, la foire aux questions, tu as des règles, les règles générales. Le délai de livraison de tel produit, c'est environ 4 semaines. Donc, il faut que vous nous commandiez. Si vous voulez une date de livraison pour Noël, il faut que la commande elle ait lieu avant la fin novembre. Voilà, c'est pas plus dur que ça. C'est les règles. Voilà. Moi qui aime cuisiner, j'aime bien dire que la liste des ingrédients dans une recette, c'est de l'information. Comment je mélange la farine, les œufs et le lait pour faire ma pâte à crêpes, puisqu'on est presque à la Chandeleur, eh bien, ça, c'est du savoir. Et savoir, c'est des règles. L'homme qui a démocratisé l'accès aux règles, à la connaissance, c'est Gutenberg. Hein. Ouais. C'est la croissance économique de la période de la Renaissance, c'est la plus longue période de croissance économique consécutive que l'Europe n'a jamais connue. 150 ans sans crise, que de croissance économique, et en tout cas que de croissance économique. Et cette croissance économique, elle a été lue au fait que dans les livres, eh ben, il y a plein de recettes. Et que les gens, ils ont lu des recettes, comment planter des poireaux. Parce qu'une fois qu'on a passé le sujet de la religion, on s'est attaqué à l'agriculture qui était forcément, et comment faire pour planter telle plante à tel endroit, etc. Et tous les jardiniers se sont partagés leur savoir-faire. Voilà. Et c'est ça qui a créé de la croissance. Le troisième type de texte, c'est le résumé. Le résumé, je dis pas tout. Je dis qu'une partie des choses. Et c'est ça qui est très bluffant, en fait, dans ChatGPT. C'est qu'effectivement, il fait des résumés de très belle qualité. Voilà, c'est le résumé. Et quand on n'a pas le temps, eh ben, le résumé, c'est super intéressant. Et donc, moi, je prédis qu'ils vont sérieusement heurter Google, bien que Yann LeCun dit qu'en fait, ils sont basés sur exactement ce qu'a fait Google et qu'ils ont abandonné, voilà, temporairement. Voilà, faut lire Yann LeCun, LeCun, pardon, en français, et son analyse de ChatGPT. Il dit en fait c'est un produit de Google, mais Google l'a même abandonné tellement les résultats n'étaient pas probants. Voilà.
Ok.
Donc voilà. Le résumé de situation, c'est ça qui est bluffant. Mais un bon résumé de situation, je ne dis pas la même chose en fonction de la personne qui lit.
Exact.
Toi qui es un ancien contrôleur de gestion, tu sais très bien que quand tu lis l'analyse d'une liasse fiscale, tu la lis pas avec le même œil que celui que tu le lis maintenant en tant que chef d'entreprise. C'est pas les mêmes choses qui t'intéressent. Voilà. Donc, en un mot, pour moi, un très bon résumé, tu ne peux faire un très bon résumé que si tu as qualifié, donc posé des questions pour savoir qui était l'interlocuteur et même quel était son niveau de compétence dans le domaine pour pouvoir lui fournir quelque chose qui est compréhensible par lui. On est sur le troisième type. Et ce type de résumé, il a une particularité, c'est que contrairement aux deux premiers textes, je ne peux pas le faire avec de la phrase à trous. Je peux pas le faire avec les systèmes de mailing du style la lettre de la banque. Bonjour monsieur, votre solde de banque est égal à tant. On a remplacé le paramètre par la valeur. Bon, voilà, ça appelle la phrase à trous. Et ça, je peux plus le faire à partir du résumé. Si en tout cas, je veux faire du résumé intelligent. Le quatrième type et les clients adorent le résumé, c'est ça qui fait le succès de ChatGPT, de mon intervention. Alors que sur Google, je suis obligé de lire des quantités de documents et j'abandonne parce que j'ai pas le temps.
C'est clair.
Le quatrième point, quatrième type de texte, c'est le diagnostic. Les gens aiment qu'on leur fasse un diagnostic. Voilà. Donc, vous êtes tombé en panne, et bien voilà, puisque vous m'avez dit ça et ça, je vous ai demandé, donc il y a bien eu un dialogue, un échange de questions-réponses, et là, je suis capable de lui dire, eh ben, je vous déconseille de faire ceci et de faire cela, par exemple. Voilà. Ça s'appelle le diagnostic. Les gens adorent le diagnostic.
Et là, je me permets de t'interrompre. Il y a un danger. Il y a un danger. C'est que personnellement, je trouve que ChatGPT n'est pas bon là-dessus. Et parce qu'en fait, justement, je lui ai demandé de faire un diagnostic. Je lui ai dit, bah voilà, en fait, j'ai pris un mail d'une personne qui avait un problème de management
Oui.
grave. J'ai pris le mail et je l'ai mis dans ChatGPT. Avant, j'avais dit à ChatGPT, voilà mes principes de management, en me disant, et je lui ai dit, réponds. Et en fait, la réponse, nulle, nulle. Genre, j'ai un problème, alors que j'avais mis mes valeurs, enfin, bref, genre, j'ai un problème avec les personnes que je gère. Et puis plus loin dans la phrase, elle dit j'ai un souci, c'est que j'ai pas les moyens d'embaucher des gens à un niveau de rémunération supérieur. Et ChatGPT, il lui donne des conseils, il lui dit entre autres, allez voir votre direction pour leur expliquer qu'il faut embaucher des gens avec un salaire plus élevé. Ce qui est débile quand tu lis le truc et que tu regardes le contexte. Parce que ce n'est pas du tout un problème de salaire qu'elle a. Et les gens, entre guillemets, elle fait un mauvais diagnostic, mais comme elle fait un mauvais diagnostic et qu'elle l'inclut dans sa question, ChatGPT lui dit ce qu'elle a envie d'entendre, c'est-à-dire que le diagnostic est bon et que la solution, ce serait de faire ça, sauf que c'est impossible parce que la direction refusera. Et donc, le conseil, il sert absolument à rien. Et si j'avais décidé, moi, de dire, bah, tiens, je vais confier à ChatGPT les réponses aux mails, mais je perds toute crédibilité. Parce que ChatGPT, en fait, on a l'impression qu'il a essayé de deviner ce que cette personne avait envie d'entendre. Et moi, mon job, c'est surtout
De pas faire
de ne
ça.
pas dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est de leur dire ce qui marche. Et souvent, ce qui marche, c'est ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et la question, c'est de dire comment je fais pour que, même si ce n'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre, je leur donne une méthode pour qu'ils y réussissent quand même, parce qu'ils n'ont pas la méthode. C'est exactement ce que je t'ai dit en début d'interview, quand je t'ai dit, surtout, ne me ménage pas, parce que je ne veux pas que tu me dises ce que j'ai envie d'entendre. Je veux que tu me dises ce qui va me faire avancer, progresser,
Bien
mais
sûr,
que tu me
avec
donnes aussi tes
bienveillance,
recettes, parce que sans
avec
recettes, tu
bienveillance
vas
et la
juste me
dignité.
traumatiser, je ne saurais pas avancer plus loin. Voilà,
Voilà.
excuse-moi pour l'interruption qui est
Non,
assez
non,
longue.
non, non. Et donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, si tu vas vers des outils pour essayer d'industrialiser donc tes réponses, il faut que, un, tu sois sur des déterministes et il faut qu'il y ait un questionnement. Et il faut être sûr, surtout, que plus de 50% du texte que tu produis soit dans la catégorie résumé, diagnostic ou recommandation. Parce que c'est ce que les gens veulent. Les gens veulent parler à un expert. Et parler à un expert, il ne leur dit pas du savoir, il ne leur dit pas de l'information, il leur donne pas d'information. Il leur donne de la réponse qui est contextuelle à leur problématique.
Exact.
C'est ce que
Le
j'appelle
truc
du diagnostic et de la
précis qui va
recommandation.
aller décoincer, en fait. Le truc qui va te sortir de l'ornière.
Oui.
Alors, si j'ai bien compris, premier type de texte, les informations.
Premier type de texte, les informations. Deuxième type de
Deuxième,
texte, le
les
savoir.
règles, le
Donc,
savoir.
et donc les règles, parce que le savoir, c'est des règles, absolument. C'est comment faire, hein, pour être le plus simple, je dirais. Une règle, c'est quoi? Ou un savoir, c'est quoi? C'est comment faire. Voilà. Donc, c'est une règle. C'est une règle, mais générique. Le comment faire, il est générique. Oui.
Oui, il n'est pas adapté forcément.
Le
Trois
troisième type de texte,
résumés.
et les gens aiment les résumés.
Quatre diagnostics.
Diagnostic, c'est une relation de cause à effet. Hein, voilà.
Et cinq recommandations.
Argumenter.
Argument.
Très argumenter. C'est la recommandation, mais argumenter. Les clients ne croient plus les experts. L'expert leur dit, il faut faire ceci, il faut acheter ça. Ben non, je ne crois pas.
OK.
Il faut aujourd'hui communiquer même avec ses clients. Ce n'est plus leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut acheter, c'est leur expliquer pourquoi. Et si ils acceptent votre explication et votre logique de raisonnement, alors ça devient la leur et ils vous font confiance puisque vous avez la même logique de raisonnement. Donc, c'est la complexité de la vente du monde moderne. Ça, c'est ce qui a changé en 20 ans.
Alors, où est aujourd'hui l'IA dans ces cinq, je dirais, niveaux? D'une manière générale, dans l'IA grand public, dis-moi où on
Dans
en
l'IA
est.
grand public, avec GPT, on sait faire de l'information, du savoir et du résumé.
On est au niveau 3.
Et on est au niveau 3, sachant que le niveau 3, c'est la grande nouveauté de ChatGPT. Tu n'avais pas de système qui savait résumer des situations.
Donc, c'est quand même une belle révolution.
Google ne résumait pas, il te donnait des liens. Google était dans l'information et le savoir.
C'est une belle révolution, déjà. Enfin, je salue le truc. Oui. Franchement, je suis bluffé, toujours autant qu'avant. Un peu moins enthousiaste, mais bluffé. Voilà. Et alors, ça, c'est le niveau de l'IA aujourd'hui, grand public.
Voilà. Et dans l'IA professionnelle, tu sais faire du diagnostic et de la recommandation. Je t'ai parlé des cobots, mais c'est ça. C'est ça que
alors,
ça fait.
Tu m'amènes...
Ça reste pour le moment confidentiel, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est en train de se développer. C'est pas la première chose que tu trouves quand tu tapes sur Google. Tu finis toujours par des cobots industriels, mais le cobot industriel est un énorme succès, au point que quand j'étais faire une intervention pour parler de mon dernier livre, The Rise of the Cobot, et j'ai fait une intervention à Oyonnax. Oyonnax est la capitale européenne, c'est une ville française, hein, capitale européenne du plastique et de la robotique, hein, en France. Voilà. J'avais des chefs d'entreprise qui étaient dans le monde de la robotique et qui m'ont dit, mais John, ça fait 5 ans qu'aucun d'entre nous n'a acheté un robot. On n'achète plus que des cobots.
D'accord.
Parce qu'on nous demande de la petite série et que le robot, c'est bien que si je voulais faire 10 millions de pièces détachées, mais on ne demande même plus 10 millions de chaises de jardin en plastique qui vont. Chacun veut sa petite série avec sa petite particularité. On rentre dans le monde des cobots. Cobots, j'ai un robot qui fait jusqu'à 60 ou 70% du travail, mais j'ai un être humain qui le dirige. Tout ce qui est intelligent, l'appareil, il vient me déplacer, il vient faire tout ce qui est pénible et répétitif. Mais la finition, c'est l'être humain qui est là et c'est l'avenir du monde d'aujourd'hui, c'est l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est la collaboration entre l'homme et la machine.
Voilà. Ok, super. Merci pour ce point, merci pour toutes les infos, je trouve, qui clarifient beaucoup les choses. Je propose qu'on passe à la partie peut-être un peu plus spécifique, orientée au team des managers. Moi, j'ai des questions et puis j'ai envie d'apprendre des choses des choses nouvelles, et en particulier il y a un truc intéressant que tu as fait, c'est que tu m'as envoyé un lien, donc je le mettrai dans la newsletter, vers un exemple d'intelligence de cobot,
c'est l'intelligence artificielle
qui réalise à partir, et tu décris tout le système, donc c'est intéressant, qui réalise à partir des informations qu'il a un diagnostic avec des recommandations. Donc là, on n'est pas dans un contexte, ce n'est pas un robot industriel qui produit, c'est vraiment un robot qui répond à une cliente. Donc, je mettrai le lien. Est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps déjà nous expliquer ça? Et puis moi, très concrètement, ça m'intéresserait de te poser des questions sur comment ça pourrait s'appliquer, par exemple, à mon domaine. Peut-être ça ne peut pas, peut-être ça peut. Voilà, j'ai des questions de ce style-là à te poser, si tu as encore le temps.
Mais bien sûr, avec plaisir. Bon, donc...
C'est là qu'on s'arrête pour la partie publique. J'espère que ça t'a plu. Pour ceux qui sont abonnés à la liste mail, ça continue. On continue la conversation. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux encore t'abonner juste en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. C'est totalement gratuit. Alors, dans cette partie privée, on va continuer à parler. Et je t'ai fait une liste parce que ça a été hyper riche, ce qu'on s'est dit. On va commencer par qui va gagner le plus d'argent avec l'IA, et tu vas voir que la réponse va t'étonner. On va voir comment le cobot a complètement révolutionné l'industrie de la production et comment il va en faire autant avec le conseil. On va te dire ce que tu dois commencer à faire maintenant pour préparer l'avenir. Si tu ne le fais pas maintenant, tu es mort à terme. Tu ne rattraperas jamais le retard. On se demandera quel est le parfait plan d'action pour un entrepreneur ou pour un manager. On verra à quel employé tu dois demander de le faire. Et tu verras que ça n'est sûrement pas un millénial. On verra les 5 choses que l'IA doit absolument comprendre pour être efficace. Si tu ne lui dis pas ces choses-là, elle sera idiote comme ChatGPT. On verra pourquoi ChatGPT m'a donné une réponse absurde quand je lui ai proposé d'aider une cliente. On prendra un cas concret de la prédiction des ventes et des achats pour une entreprise de distribution, la mienne, et on verra comment une mauvaise intelligence artificielle peut amplifier les erreurs au lieu de les corriger. On te dira ce qu'il faut faire si tu n'as pas commencé à collecter les données, parce que si tu n'as pas de données pour l'intelligence artificielle, tu es potentiellement mort debout. On a trouvé une solution simple avec John, et donc on va te la proposer. Et tu verras, et c'est le plus important, que tout cela est énormément porteur d'espoir, que ce soit pour les chefs d'entreprise, pour les managers ou pour les employés humains de leurs entreprises. Et ça, pour moi, c'était ultra important. D'ailleurs, on va finir sur une réflexion philosophique avec John sur le sens de la vie du manager et à travers ça, ce que tu dois absolument faire si tu veux rester utile pour ton entreprise. John a côtoyé des très grands patrons américains et il en a tiré une règle assez intéressante qu'on t'a gardée pour la fin. Si tu veux avoir accès à tout ça, c'est le lien juste en dessous. Je te dis à très bientôt.